Bonjour à tous chers amis, nous sommes lundi, il est 17h et le lundi c'est l'heure du Blabla Mix à 17h. Le Blabla Mix fatigué du lundi, mais on est là, on va se réveiller tous ensemble comme si c'était un morning, on va se mettre très très bien. On a plein de choses, d'abord je vous salue tous chers amis, chers HDRiennes, chers HDRiens, chers amis de Gramont et bien sûr tout, vous tous qui nous écoutez d'abord à Évreux et dans le sud de l'Eure sur Principe Actif et sur internet au radiohdr.net. Nous sommes donc dans le Blabla Mix, toujours en bonne compagnie comme d'habitude. Nous sommes avec Ousmane qui réalise cette émission, bonsoir Ousmane.
Bonsoir.
Nous sommes avec Fino, vous le connaissez, Fino c'est un peu l'homme actualité du Blabla Mix. Bonsoir Fino.
Bonsoir Romain.
Et puis vous le savez...
Je dis Romain, excuse-moi, Damien.
On me confond souvent avec Romain, effectivement. Ouais. Et puis vous le savez, une fois de temps en temps, une volute de fumée blanche s'élève vers le ciel, les cloches sonnent et on s'écrit Abemus service civique. Nous avons un service civique, chers amis, puisque nous avons Inès avec nous dans ce studio. Inès qui va rapporter un petit peu de civique dans notre service. Bonsoir Inès.
Bonjour Damien, ou bonsoir Damien.
On retrouve donc tout un tas de choses, bien sûr votre agenda, le traditionnel agenda. Évidemment, le lundi, évidemment, vous allez retrouver votre revue de presse. Et puis, dans cette émission, beaucoup de temps va être consacré, bien sûr, à la musique, mais surtout au travail de Inès, qui est donc allée voir le fameux festival de cinéma palestinien dont on vous parlait récemment, jeudi dernier. Donc, le fameux festival Regard sur la Palestine, organisé par l'association France-Palestine Solidarité. Malheureusement, on n'a pas pu vous diffuser la deuxième partie de cette interview à cause d'un petit souci technique. Mais bon, on a quand même envoyé Inès pour aller regarder tous ces petits films et tout, interviewer les gens, et vous faire un petit bilan de ce festival. Et puis bien sûr on s'écoute de la musique, puisque là on va s'écouter un groupe de musique que je vous présenterai tout à l'heure mais qui ne manque pas d'originalité sur Radio HDR.
Nace febrero en la boca de un ñuro de Aloja, llegó el carnaval. Y el carnaval de La Rioja parece estallar, si en una nube de harina las niñas suspiran queriendo chayar. Las niñas suspiran queriendo chayar. El más fino brillante de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Ça vous a plu? Eh bien, réjouissez-vous, c'était Las Famatinas. Et un débat nous animait en préparant cette émission, savoir que voulait dire Las Famatinas. Eh bien, Las Famatinas, ça veut dire les filles de Famatina, en référence au mont Famatina, qui donc se trouve en Argentine.
Mais je suis déçu, parce que j'ai une idée que ça voulait dire la femme latina, c'est...
Eh bien non, tu vois.
C'est cliché, en positif bien sûr.
C'était plus compliqué que ça donc. Et vous me voyez venir, on parle d'un trio de femmes qui font de la musique. Eh bien oui, on va vous parler du festival Chandelle, hein, donc le 20e festival Chandelle, ce fameux festival qui est maintenant une institution dans le coin, qui doit donc commencer le 29 octobre pour durer un mois, donc s'étendre jusqu'au 29 novembre. Et donc Las Famatinas, on vous présente de toute façon quasiment un groupe par jour dans le Blabla Mix dans le cadre de ce gros festival de musique féminine. Eh bien Las Famatinas, vous pourrez les retrouver le 5 novembre à 19h à la la chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly. Et puis le mois d'octobre, c'est un mois dédié à différentes couleurs. Bien sûr, octobre rose, on vous en a peut-être parlé un petit peu récemment. De toute façon, on sera amené à vous en reparler. C'est aussi octobre bleu. Octobre bleu, donc, moi je découvre avec vous. Hein, je ne connaissais pas octobre bleu, j'en ai entendu parler aujourd'hui. C'est donc le mois de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau. C'est un gros événement finalement qui va se dérouler du 14 au 25 octobre 2019. C'est à la fois chez nous et à Gramont, puisque ce sera au centre socioculturel Simone Veil et à la Maison du Plateau. Et donc là, on peut retrouver tout un tas de choses. Hein. Du lundi 14 octobre au vendredi 19 octobre à la Maison du Plateau et au centre socioculturel Simone Veil, donc, on pourra retrouver différentes animations, des jeux, des expositions, un forum. Ça, c'est entrée libre, sans inscription. Vous passez dans le coin, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, allez voir ça. Et puis sinon, sur inscription, donc auprès du CMS Jules Adeline de la Maison du Plateau et auprès du centre socioculturel Simone Veil, vous pourrez participer à des chasses au trésor, des petits-déj informations, moyens de manger, on aime bien, avec EDF et Engie, donc qui vont parler du chèque énergie, la Maison de la Justice et du Droit et l'association UFC Que Choisir, qui vont vous parler du démarchage à domicile des fournisseurs. Vous pourrez également participer à une visite du SMEDAR, il n'y aura que 30 places, attention. Un atelier de fabrication de produits ménagers, ça peut être très pratique pour faire ses propres produits ménagers. C'est à la fois écolo et économique, donc profitez-en. Et différents ateliers créatifs, hein, pour voir un petit peu l'écologie d'une façon plus créative que punitive. Et puis du 21 octobre au 25 octobre, donc, pour le coup, c'est à la Maison du Plateau et au CMS Europe. Alors là, pour le coup, pareil, animation, des jeux, tout un tas de petites activités, sans inscription en entrée libre. Et par inscription, toujours une visite du SMEDAR, toujours des petits déjeuners d'information, et on aime toujours bien manger. Un repas thématique énergie organisé par Solidarité Plateau. On salue les amis de Solidarité Plateau qui nous font manger, déjà ça fait plaisir, et qui nous font manger utile, puisqu'on va parler écologie. Et toujours des petits ateliers de tout type, donc voilà, faut ça ne pas manquer. L'ami Ousmane lui-même a également, comment dire, de l'agenda pour vous. C'est pas facile le lundi, Ousmane, je le dis tous les lundis.
C'est pas facile, justement. Bah, juste, est-ce que tu peux répéter le mot octobre bleu ?
Octobre bleu.
On dirait un commercial de pilules bleues, quoi.
On pourrait certainement tenir toute une heure avec rien que des blagues sur ce que tu viens de dire, mon cher Ousmane.
Effectivement, dans le cadre du festival Chandelle, donc Chandelle, c'est aussi partout dans la ville de Rouen, la chapelle Saint-Louis, l'étincelle, théâtre de la ville de Rouen, donc on propose aux habitants de Hauts-de-Rouen et pas que, de découvrir Oum, qui est ambassadrice de la culture marocaine, donc, et avec Sona Diobarté, donc ils seront là le 7 novembre, ici à la salle Louis Jouvet sur les Hauts-de-Rouen, c'est le 7 novembre. C'est bon, arrête de rigoler.
Je suis en solidarité avec toi. Et puis bon, voilà, vous le savez, le lundi, eh bien, c'est le jour de la revue de presse et je crois qu'on a plein de nouveaux trucs pour la revue de presse, Ousmane.
Effectivement, avec Monsieur Antoine, juste après ça.
La revue de presse, c'est chaque lundi, chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi. C'est l'actualité des Hauts-de-Rouen et de toute l'agglomération rouennaise. La revue de presse, c'est tous les jours de 17h à 18h dans le Blablamix. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse du Blablamix. HDRien, HDRienne, voici les infos du jour. Suite à l'incendie de l'usine Lubrizol, 5253 tonnes de produits chimiques partis en fumée. Eh ouais, c'est ce qu'on respire, voire toxique. Les populations de Rouen et au-delà peuvent savoir ce que contenait le gigantesque panache de fumée lors de l'incendie d'une partie de l'usine Lubrizol ce jeudi 26 septembre dernier. La préfecture de la Seine-Maritime a rendu publique la liste des produits chimiques présents dans l'entrepôt A5 qui a brûlé. Au total, c'est 5253 tonnes de produits toxiques qui se sont évaporés dans l'air. Je répète, c'est ce qu'on respire, voire toxique. La plus grande quantité des produits détruits comprenait des additifs multi-usages, 3308 tonnes. Viennent ensuite les améliorants de viscosité, 7011 tonnes. Puis des huiles, détergents, on retrouve du benzène, métaux lourds, des hydrocarbures aromatiques. Et pire encore, amiante, extension Lubrizol, v'là les odeurs. Le préfet répond aux attaques après la catastrophe lors de la conférence de presse. La foule réclame la vérité. Je répète, la foule réclame la vérité. Quelques heures avant la publication de la liste des produits chimiques incendiés, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le centre-ville de Rouen pour réclamer la vérité sur les conséquences de cette catastrophe industrielle, écologique et sanitaire. 5000 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville de Rouen. 5 syndicats ont été reçus par le maire de Rouen. Et oui, Rouen sous la panache. La sociologue de santé Annie Thébault-Mauny ne décolère pas après l'incendie Lubrizol à Rouen. Elle alerte les conséquences de la catastrophe industrielle. La sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire à l'ICERM et spécialiste des maladies professionnelles et de l'environnement. Elle a plusieurs fois fait des reprises, dénoncé à travers ses travaux l'impunité des crimes industriels. Au lendemain de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, elle soutient que les gens ont raison d'avoir peur s'ils étaient sous la panache. Les dangers liés à la toxicité différée et ses conséquences doivent être pris en compte et un suivi médical strict doit être mis en place. C'est-à-dire toutes les personnes devraient faire des petites analyses, des prises de sang pour voir justement ce qui en est pour leur santé. Et oui, les conseils donnés aux familles. Hier, la métropole de Rouen indiquait que l'eau était potable. Qu'en est-il des conséquences sur la nappe phréatique? Il y en aura, c'est certain. Lubrizol peut être comparé à la catastrophe industrielle de 1984 à Bhopal en Inde. Et encore, aujourd'hui, la nappe phréatique là-bas pose souci. Les particules de suie qui ont imprégné la terre contiennent des molécules toxiques. Des pollutions de l'eau vont être relevées, c'est certain. Que conseillez-vous aux familles qui vivent dans le périmètre du panache de fumée? D'après la métropole, il faut nettoyer l'intérieur des maisons de façon très importante. Pensez qu'il s'agissait de fumée et de suie et donc que cela peut s'infiltrer très facilement partout. Il faut également nettoyer les ventilations. C'est très important. Il faut veiller absolument à ce que les enfants se lavent les mains et le visage régulièrement. Il ne faut pas entrer dans des maisons avec des chaussures. D'accord, des maisons. Ceci dit, dans les appartements, il faut laisser ses chaussures sur le palier. Enfin, je sais que cela peut paraître compliqué, mais il faut demander des analyses à des laboratoires spécialisés pour vérifier qu'il n'y a aucune pollution inhérente à ce panache chez vous. Je sais bien que mon discours peut effrayer, mais je suis chercheur, chercheuse indignée que cette catastrophe sanitaire ne soit pas prise dans sa juste gravité. Donc c'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui ont répondu à ces personnes, c'est les personnes de la métropole. Voilà pour cette revue de presse bien importante sur ce sujet dû à l'usine de Lubrizol que toutes les personnes de la Seine-Maritime sont concernés, notamment les personnes de Rouen. Donc prenez garde et on vous donnera plus d'infos dans la revue de presse prochainement dans le Blabla Mix. À vous la régie.
Please turn on the radio so that we can hear the news.
Is this what you mean?
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.
I'm surprised to hear that.
I always enjoy listening to a good program on the radio.
Vous écoutez HTR?
Yes.
Oui, encore et toujours, cette catastrophe de Lubrizol, on va pas s'étendre encore sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu perdu dans cette histoire encore, hein. Même les sceptiques, tout le monde est paumé. Eh bien écoutez, accrochez-vous, hein, essayez de respirer. En attendant, il se passe toujours des choses, hein. On n'a pas arrêté de vivre avec ces saletés qui nous tombent dessus et qui sont peut-être toxiques, peut-être pas, on ne sait pas. Puisqu'il y a bien sûr Terre de Parole, ces fameuses capsules sonores dont on vous parlait l'autre jour avec l'ami comédien qui était avec nous, dont j'ai malheureusement oublié le prénom le lundi, c'est difficile. Le lundi c'est très difficile, chers amis, envoyez-nous de l'aide. Eh bien je vous propose qu'on écoute donc ce fameux témoignage d'une personne de l'EHPAD qui nous parle.
Je m'appelle Geneviève Gess, j'ai 89 ans. L'amour fou pour moi, c'est la passion. Et la passion finit toujours mal selon mes expériences professionnelles. Quand j'étais infirmière en hôpital psychiatrique, j'ai rencontré de nombreux malades qui avaient tenté de se suicider. Interrogées, elles justifiaient leur acte par cette invariable phrase « J'étais folle de lui ». Plus tard, j'ai eu l'occasion de relire de nombreuses expertises psychiatriques sur les prisonniers de la prison Bonne Nouvelle, qui avaient agressé leur compagne. Interrogés sur les causes de leurs gestes, ils les justifiaient en disant qu'ils étaient jaloux et fous d'elle.
C'est pas facile le lundi, on aborde des sujets lourds. En tout cas, vous avez pas fini d'entendre ces fameuses petites capsules, ces petits témoignages, ces petits moments de vie aussi, ces petits regards de nos anciens, voilà, qui nous font parvenir un peu des moments de leur vie, de la sagesse sur le thème donc de l'amour fou. Et puis parlons aussi un petit peu jeunesse, parlons du fameux Xantorg, mon cher Ousmane, le fameux Xantorg dont tu connais l'identité secrète, qui est un DJ du coin et qui fait des petites mixtapes, monsieur Ousmane.
Bah, je vous propose de découvrir ses talents.
Super.
Welcome.
Ça vous concerne.
Une émission qui aborde des sujets qui vous regardent.
Ça vous concerne.
C'est un samedi sur deux sur la radio HDR.
HDR.
Nous débattons avec des représentants politiques, des personnes de la société civile.
Ça vous concerne.
C'est un samedi sur deux à 11h sur la radio HDR 99.1 et aussi sur radiohdr.net.
Ça vous concerne, une émission que vous retrouverez très bientôt, ainsi que Ici Londres qui va bientôt reprendre également. On vous prépare ça tranquillement. Et puisque vous prépare également Inès, en plus de préparer Ici Londres, voilà, je spoil le tout pour tout le monde, eh bien, elle vous a préparé des petites interviews, un petit regard également sur ce festival, regard sur la Palestine. Alors évidemment, on a beaucoup de trucs, donc ça va être compliqué niveau temps, mais on va essayer de se presser. Inès, présente-nous un petit peu ce que tu as fait.
Alors oui, en effet, je pense que vous en avez parlé toute la semaine, à savoir le 4e festival du cinéma palestinien, donc Regard sur la Palestine. Donc vous avez reçu Cara, et puis moi je l'ai rencontrée sur
et
place.
Et Geneviève également.
Et Geneviève aussi, faut pas oublier les deux, le duo aussi qui a choisi ce film-là. Nous sommes allés sur place samedi pour aller voir un peu plus en détail, pour rendre visite aussi à toutes ces personnes qui ont organisé ça. Donc on est allés sur place, on est parti rendre visite, on a vu un documentaire. Bon, forcément, on n'a pas non plus la foi d'aller regarder tous. Il faut avoir une détermination. Malheureusement, je ne l'ai pas. Et voilà, nous sommes sortis du cinéma. Nous sommes partis chercher un peu les témoignages, voir un peu les ressentis. Et on nous a rencontré la première que vous avez rencontrée, mais elle est plus dans le détail. Il s'agit de Cara. Elle est militante à la A. AFPS, donc Association France-Palestine Solidarité, qui est organisatrice. Elle nous parle un peu de l'organisation, de son bilan, le festival dans le détail. Donc, on vous met tout ça bien, bien chargé, bien mixé, et puis sur les ondes de la radio HDR.
Est-ce que vous pouvez présenter en quelques secondes un peu ce festival ? Pourquoi l'avoir fait aussi et à Rouen et à Lomnia ? Comment s'est passée cette organisation pour que cet événement se fasse aujourd'hui ?
C'est-à-dire que l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, donc trouver tous les moyens qui sont bons pour entendre parler de ce pays où, qui ne va pas bien et où un peuple qui est maltraité, et donc parler de tout ça. C'est un festival de cinéma, c'est la quatrième année, ça veut dire que ça marche, que les gens sont intéressés, que les gens viennent, et qu'on est assez ouvert de pas faire uniquement des choses qu'on a l'habitude de voir sur la Palestine, mais d'ouvrir un petit peu tout ça. C'est par exemple hier, pour la soirée d'ouverture, on a fait un apéro géant là devant le cinéma, avec un petit concert de musique moyenne-orientale, avec un oud et des percussions. Et les gens s'arrêtent, sont intéressés, regardent, écoutent, posent des questions, mangent un petit coup, boivent un petit coup, et puis ils rentrent au cinéma. Voilà. Et hier, c'était le film d'Elia Suleiman, qui est un très très grand cinéaste palestinien, qui a un univers très décalé, très... à la limite entre Buster Keaton et Jacques Tati. Je ne sais pas si vous êtes jeune, si vous connaissez ces gens-là. Mais donc c'est un univers comme ça qui est pratiquement muet, où les situations s'installent tout d'un coup, et puis le gag apparaît. C'était complètement naturel. Moi, je suis très sensible, je suis très touchée par cet univers. Voilà.
Justement, à propos de cet univers, là, pour l'heure qui est, donc il y a déjà un premier film qui est passé à 13h45. Quels sont les ressentis que vous avez là, pour l'instant, pendant cette journée qui commence à bouger activement ?
Celui de 13h45 est le deuxième film de la journée. Il y en a eu un ce matin à 10h30. Qui s'appelait Tel Aviv on Fire, qui est un film qui est déjà distribué en France, qui était déjà sorti à l'Omnia, et que c'est une comédie. C'est un peu pour ça qu'on l'a reprogrammé, parce que celui de 13h45, c'est un documentaire qui a eu le prix du meilleur documentaire à Cannes l'année dernière, et qui parle vraiment de la vie d'un groupe de Palestiniens à la limite de Gaza. Et pendant l'opération qui s'est appelée Plan Durci en 2009, à la fin des années 2000. Et ça, c'est très raide.
Vous avez appréhendé comment cette organisation ? Est-ce que vous avez eu des ressentis, vous avez eu des craintes avant le déroulement de ce festival, ou comme vous avez l'habitude, vous vous êtes dit ça va bien se passer, ça va aller comme d'habitude, le public est très réceptif?
Oui, on est assez confiants, parce que du coup, comme c'est la quatrième fois qu'on le fait, ça marche super bien avec les gens de l'Omnia qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup accompagnés et tout ça. Et puis que hier, on a rempli une salle énorme, quoi. C'est énorme. Hein. Et donc ils sont très contents, nous on est très contents. Donc ça prouve que ça marche et que voilà, et que les gens ils sont intéressés par. Moi je pense que un festival c'est un moment un peu convivial où tout le monde va voir des choses qui traitent de la même chose et qu'il y a une espèce d'osmose par rapport à ça. Et je trouve que les festivals c'est des choses qui sont très intéressantes. Parce que d'un même sujet, on peut en sortir 15 000 façons d'en parler, et ça, c'est enthousiasmant, quoi.
Et 3 jours de festival, est-ce que c'est une volonté de pouvoir amener le public à une réflexion sur le pays, sur la Palestine d'aujourd'hui ou pas ?
Oui, comment je vais expliquer les choses ? Quand on écoute un peu les infos et qu'on entend les trucs, on réagit à ces informations-là avec ce qu'on a dans la tête. Ouais, je vais vous donner un exemple. Quand on entend parler de tous les réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps, quand je suis allée en Palestine, je croyais trouver des camps, c'est-à-dire des camps avec des tentes. Non, pas du tout. Les camps palestiniens, ils sont en durme. Donc, c'est ça ce que je veux dire. C'est ce que les images ou les informations peuvent provoquer dans dans votre tête. Et puis, dans un festival, on donne une image de la réalité quand même. Donc vous pouvez faire la part des choses. Hein. Voilà.
Le film qui est passé, est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que vous avez un petit ressenti? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que ce documentaire-là, pardon, va montrer un témoignage assez fort du point de vue d'une jeune fille pendant la guerre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez eu des retours de ce film-là? Qu'est-ce que le public en dit?
Ben ça, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de retours, hein, parce que la séance vient de se terminer. Donc, voilà. Je pense que les gens, ils ont été un peu secoués par la séance. Hein. J'ai bien vu comment ils sortaient de la séance. Hein. Et donc, non, je pense qu'on aura des retours un petit peu plus tard. Hein. Mais... Enfin, c'est un film qui est quand même assez violent dans ce qu'il raconte et dans la façon dont il le montre, bien qu'il le montre avec des parties qui sont en animation, dessinées, et que ça se permet de prendre un peu de distance. Bon voilà, et ça je trouve que ça fait du bien. Et bon après, bah, pour les retours, on va attendre un peu de voir ce qu'en disent les gens.
Et au-delà de ce festival, vous, à la AFFS, FPS, on va y arriver, qu'est-ce que vous souhaitez faire en dehors du cinéma? Est-ce que vous avez d'autres moyens d'action qui permettent de faire l'état de la Palestine en dehors du cinéma?
Oui, bien sûr, on fait des actions. Hein, quand il y a des choses qui se passent là-bas, sur Gaza, par exemple, on a monté des camps, un camp de Gaza, sur la place de la cathédrale, ou à Saint-Sever. On fait des actions comme ça, on fait des actions aussi par un BDS, BDS, boycott des investissements sanctions, et par rapport aux entreprises françaises par exemple, ou aux banques françaises qui travaillent sur les colonies illégales en Israël. Et donc voilà, oui, bien sûr, on fait des actions comme ça. Mais si vous voulez, moi, par rapport au cinéma, je suis un peu une fondue de cinoche, donc je vais défendre le cinéma à haute dose. Donc un festival, c'est très bien pour ça. Voilà.
Pour la conclusion du vendredi 4 octobre, parce que vous étiez au sein du mouvement, est-ce que vous avez déjà une petite conclusion du vendredi ou pas?
Bah, si vous voulez, moi, personnellement, hein, de toute façon, d'une façon pas du tout objective, d'une façon qui est la mienne, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Ilia Suleiman et j'aime beaucoup son univers décalé. Donc je suis très contente que les gens soient venus partager cet instant, si vous voulez, d'une façon avec moi, mais bon, pas avec moi, mais bon, avec tout le monde, quoi. Et je suis très contente, parce qu'on s'est dit, un festival, bon, ça peut s'enfermer un peu dans une façon de fonctionner, qui peut être un peu lourd pour tout le monde, lourd pour les spectateurs, lourd pour les organisateurs, et tout ça, bon. Voilà, et le fait d'avoir un peu changé cette année, en proposant un petit concert et un apéro géant, je pense que ça, il va falloir qu'on en parle, qu'on en fasse le bilan, et qu'on voit si on peut le réutiliser autrement pour... Bon, voilà, il se passait beaucoup de choses au niveau de l'apéro géant. Les gens parlaient, posaient des questions, comment ça se fait, comment vous faites, comment, etc., etc. On a fait de radio, il y a Palestine TV qui est venue de Paris aujourd'hui, là, qui était là encore tout à l'heure, peut-être ils sont encore là, oui ils sont encore là, et donc voilà, donc ça intéresse, hein. Donc proposer des images et des choses qui peuvent faire évoluer les gens ou leur faire poser des questions sur comment ils peuvent faire pour intervenir et tout ça. Je voudrais juste dire qu'Israël est un pays où l'apartheid règne. Et je voudrais rappeler, mais vous êtes trop jeune encore pour ça, je voudrais rappeler les interventions de la société civile internationale à propos de l'apartheid, hein, en Afrique du Sud. Hein. Il y a eu un boycottage énorme, hein, des oranges Oudspan, qui était la base de l'économie de l'Afrique du Sud. Et il y a eu un boycott de la part de toutes les sociétés civiles internationales qui a fait capoter quand même, enfin en partie, mais qui a fait capoter l'apartheid d'Afrique du Sud. Hein, voilà. Donc le mouvement BDS, hein, ça peut arriver à ça. Voilà.
Il y a un message fort que vous voulez faire passer à travers ce festival du cinéma palestinien. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en avant par l'intermédiaire du 7e art, donc le cinéma?
Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on peut voir des films comme celui de tout à l'heure, là, Simon Hérode, qui est un film vraiment, je veux dire, actuel et qui décrit vraiment comment ça se passe là-bas. Et puis après, montrer aussi d'autres films pour montrer quelque chose qui est absolument incroyable, c'est l'humour des Palestiniens qui ont vraiment, qui vivent des choses totalement incroyables et qui ont une possibilité d'humour pour prendre de la distance avec tout ça et que nous, on en profite en regardant leurs films. Voilà. Ils ont beaucoup d'imagination, ils ont beaucoup d'humour. Et ça, c'est génial.
Et oui, c'est génial, c'est merveilleux, un moment de convivialité, un moment avec des concerts et des apéros, mais bien évidemment, c'est pas assez pour bien décrire cet événement qui a été riche en émotions, qui a apporté au public d'avoir une certaine réflexion sur un nouveau regard sur la Palestine. Et puis, pour compléter un peu cette réflexion, on a Geneviève qui vient aussi de la même association, donc France-Palestine Solidarité, qui nous livre un peu son témoignage, son ressenti et qu'est-ce qu'elle a pensé de cette journée.
Pourquoi avoir voulu donner de votre temps pour ce festival aujourd'hui ?
Parce que j'étais déjà venue en tant que... pas cliente, mais intéressée au festival. Et là, bon, on cherchait une bénévole, des bénévoles. Bon, ben, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez participé un peu hier, au début du festival, ou alors c'est vraiment là, le premier jour, en tant que bénévole?
Non, j'ai participé. D'abord, on l'a monté avec Cara, hein, puisqu'on était à trois, et que bon, les deux autres avaient déjà une grande habitude, mais on a partagé le travail quand même. Même si j'étais la petite dernière et que... Voilà. Hein.
Est-ce que vous pouvez un peu parler du festival qui a commencé hier? Comment vous l'avez ressenti déjà ce premier jour, ce vendredi 4 octobre, les retours que vous avez eus un peu?
Alors, on était très... très intéressée parce qu'on avait le film de... Je ne sais plus comment il s'appelle.
Hein. Oui, c'est pas grave.
Donc, un film qui avait été primé à Cannes et qui n'était pas encore sorti en France. Donc, on était très excités pour savoir si on avait fait assez de pub pour avoir du monde. Et on a été très contentes puisque le cinéma était plein. Donc, ça, c'était un grand plaisir. Et il y avait on était déçus par le temps, mais bon, ça s'est bien passé. Pour finir, il n'est pas tombé des trombes d'eau, donc ça, puisqu'il y avait un apéro dehors, donc c'était bien, avec la musique. Mais comme je tenais la table de presse, moi je n'ai pas beaucoup participé ni écouté la musique. Voilà.
Pour la table de presse, comment ça se passe? Les gens sont curieux? Est-ce que vous avez un retour un peu du public qui vient un peu vous voir?
Bon, les gens sont là, Non, ils viennent acheter des bouquins un peu pour les cadeaux de Noël ou bien comme ça, des petits bouquins qui peuvent... Ce que je comprends tout à fait, hein, c'était moi-même qui avais établi la liste des romans, enfin des bouquins sur la Palestine, et j'en avais pris que des petits et pas trop sévères, et pas trop stricts, et pas trop difficiles pour que ça parte, quoi, que ça les intéresse, que ça soit pas une punition. Voilà.
Selon vous, quels sont un peu les objectifs de ce festival? Est-ce qu'il y a un message fort à passer à travers le cinéma?
Alors, le message, c'est la Palestine, ça existe. On n'en parle pas beaucoup, mais la Palestine, ça existe et ça va pas du tout. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est vraiment... Bon, là, à part le film que j'ai vu tout à l'heure et qui était un documentaire sur... la façon dont les Israéliens éjectent les Palestiniens, éjectent et tuent et massacrent. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en fait, bon, c'est la cata. Hein. Franchement, c'est la cata, on n'en parle pas parce qu'on n'arrive plus à faire. Et là, on arrive de moins en moins à faire. Et là, avec Trump, on arrive de moins en moins à faire. Et petit à petit, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir pour que Gaza puisse vivre correctement, normalement, pour que les gens... Enfin, ils sont prisonniers là-dedans. Et les autres, d'un côté, ils sont en prison, et de l'autre côté, il y a un responsable israélien qui dit ben, « on va annexer, là, si je reste, on annexe toute la Cisjordanie ». Bon, c'est quand même... Alors que j'ai relu tout à l'heure sur le dos d'un livre, justement, que la déclaration de Balfour. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Et il emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui porte atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives de Palestine, ainsi qu'aux droits et aux statuts politiques dont les juifs jouissent dans les autres pays. Donc c'était quand même une belle idée. Hein. Enfin, après on peut être ou non d'accord avec l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, ça c'est encore autre chose, mais normalement, il aurait fallu que normalement tout devait se passer bien. On sait bien que dans ces cas-là, il n'y a rien qui se passe bien, mais bon, voilà.
Sur le choix des films, des documentaires, est-ce que vous pensez que ces choix-là peuvent illustrer un peu ce qui se passe en Palestine, ou vous trouvez que ce n'est pas assez suffisant ?
La volonté, ce n'était pas forcément d'instruire de tout ce qui se passe en Palestine. Hein. Le documentaire, là, il était... souvent, il y en a un qui marque, et puis les autres, ils peuvent être... on vit en Palestine. Hein. On vit, on fait l'amour, on se déplace, enfin, on se marie, on a des enfants. Donc forcément, il y a des choses qui... On fait du cinéma aussi, puisqu'il y avait un film sur une série qui se passait en Palestine. Donc, c'est la vie. Et là, ça montre tous ces aspects de la vie, de façon culturelle, mais avec, la plupart du temps, dans ce pays-là, c'est-à-dire marqué par un certain nombre de contraintes et pesantes. Donc, ça ressort, mais ça ressort de façon... disons en arrière-plan ou voilà. Cette année, enfin, il y a eu des festivals où on a parlé des prisonniers palestiniens. Bon, là, on en a pas parlé. Bon, ça dépend des fois, ça. C'est aussi en fonction de ce qui est fait.
Pour ce festival qui a lieu du 4, du 5 et du 6 octobre, comment vous avez appréhendé les choses? Et puis là, maintenant, comment vous ressentez les choses?
C'est Cara qui avait les relations et qui connaît bien le cinéma, qui a choisi les films. Après, elle les a triés, elle a pris ceux qu'elle voyait, parce qu'il faut quand même que ce soit des films palestiniens, hein, même si ils sont ou sur la Palestine, même s'ils sont faits par d'autres pays, puisqu'il y en avait un qui était italien, le documentaire il est italien, mais et après à trois on le visionnait. Et puis on disait que si ça nous paraissait bien ou pas. Après, ça se construit comme ça, on en élimine, voilà.
C'est un choix assez difficile. Il y a des films à un moment que vous avez voulu prendre et puis il y a eu des choses auxquelles vous n'étiez pas d'accord et donc du coup ça a limité
non,
le choix.
On a été assez d'accord sur les films. Il y a celui d'hier soir, personne ne l'avait vu, hein, puisqu'il n'est pas sorti depuis Cannes. Celui de ce soir, moi je ne l'ai pas vu, il n'est pas sorti en France. Je pense qu'on a dû avoir une copie, mais soit je ne l'ai pas regardé tout entière, soit je ne m'en souviens plus. Parce que comme on l'a fait chez soi et rapidement, ça ne marque pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en se posant dans le... sur un fauteuil et en se disant je vais regarder. En fait, on est à la bourre un peu pour regarder, donc voilà.
Sur un peu le festival et même aussi un peu axé sur une réflexion sur la Palestine, est-ce que vous avez déjà un avis qui se pose? Est-ce que pour vous, ces films-là peuvent amener le public à réfléchir un peu sur la Palestine et sur des questions dans lesquelles peut-être personne ne s'est posé?
Que personne ne s'est posé, ça m'étonnerait, hein, parce que... Mais bon, après, je sais pas moi, c'est les gens qui vont au cinéma ou les gens qui lisent un bouquin, on sait très bien que tout d'un coup, il y a quelque chose de particulier qui touche une personne. On n'est jamais touchés tous par la même chose. Hein, et quelqu'un va se dire, tiens, je vais lire le bouquin qui est à l'origine de ce film, ou bien je vais étudier la question parce que je trouve que c'est épouvantable ce qui se passe. Enfin, à partir de quelque chose qu'il voit, c'est pas... Et puis, il peut commencer à lire et à être intéressé. Nous, c'est comme ça que moi j'ai fait. Hein. Bon, à la CIMAD, il y avait un groupe Solidarité Internationale qui travaillait, et il y avait un groupe qui travaillait sur la Palestine. Bon, je sais que je n'ai pas pu y aller parce que j'étais dans un autre groupe, c'est comme ça. Mais du coup, ce que j'ai pas fait à la CIMAD, je le refais ici. J'essaie de réfléchir, j'essaie de comprendre. Il y a des conférences et ça me fait comprendre ce qui se passe un peu mieux. Je lis les articles, etc. Je pense que tout le monde, enfin, chacun a sa propre démarche pour aller vers quelque chose. Hein.
Une dernière question, est-ce qu'il y a un message, quelque chose que vous avez envie de faire passer aux auditeurs qui écouteraient sur ce festival et qui donnerait peut-être dans 2 ans vouloir venir ?
En fait, tout ce qui est étranger, tout ce qui nous est étranger ne peut que nous ouvrir. C'est vraiment ça, les étrangers, c'est pas parce qu'ils sont étrangers, si on a peur, ça sert à rien de se fermer. La peur est destructrice. L'ouverture est constructive pour tout le monde. Les autres, c'est des gens comme nous. Ils ont une culture différente, ils ont des habitudes de vie différentes, mais ils ont un esprit comme nous, ils ont un cœur comme nous, ils ont une vie comme nous. Voilà. Donc moi, je suis vraiment pour l'ouverture, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour les... Et on n'a aucun droit de aucun pouvoir sur les autres, ni sur la Palestine, ni sur les étrangers qu'on rejette comme ça dans leur pays, alors qu'ils sont venus. En général, on ne part pas sans grande envie ou pour rien. Quand on part de chez soi, c'est difficile de partir.
Sans transition aucune, bien sûr, avant de retrouver la suite des interviews de l'ami Inès qui travaille même le week-end pour vous fournir du contenu, chers auditeurs. Eh bien, on va s'écouter un artiste qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. C'est un artiste avré, comme de nombreux excellents artistes français. Et c'est donc Nino Godfunk sur Radio HDR.
Still say I love you. Okay, I'm not seeing wrong. I'm a fair boy. Why don't you come back to me? Come back to me. Come back to me, baby. I know you had this song before. For your fingers on and on. I know it, but I swear I feel like somebody new. Why don't you come back to me? Come back to me, baby. I know what you heard about me. The way they see me, you know one thing goes wrong when you believe them against me. Let them repeat the song. They're not like you, they're not like you and me. You and me.
Tell me.
We're my friends, we're my enemies. 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 I need to write a song about the way they feel about me. My body's here, my soul is gone. I need them. Come back to me, come back to me, come back to me, come back to me, baby. I used to be an icon. I don't know why they left me. I don't know where they all gone. It's looked like a big crash for me. Come back to me, come back to me, come back to me, baby. We're my friends, we're my enemies. 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 Motherfucker wants me to fall. I gotta be stronger at all. I got more flow for y'all. Motherfucker want my downfall. Motherfucker want me to fall. I think I'm getting paranoid. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Brr. We're my friends, we're my enemies. Hey. We're my friends, we're my enemies. When my friends were 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 my enemies.
Et oui, on se retrouve dans le Blabla Mix, toujours dans notre sortie à l'Omnia. Et oui, on n'a pas fini de rencontrer du monde puisqu'on a rencontré Jean-Marc Delacruz qui est programmateur de l'Omnia et qui a accepté de répondre à nos questions.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ce festival et de son organisation aussi ?
Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est créé il y a, en ce qui nous concerne, je pense, 8 ans déjà. Et il a été créé par deux passionnés de cinéma et de politique, voilà. Et donc elles sont venues me rencontrer en demandant si elles pouvaient éventuellement mener un projet de cinéma. Elles voulaient programmer des films pour défendre la Palestine. Donc elles ont décidé de nous proposer de faire de la programmation. Et donc moi je leur ai dit, on leur a dit qu'il n'y avait absolument aucun problème. Et donc elles ont, avec un talent incroyable, beaucoup de cinéphilie, beaucoup d'attention, elles ont programmé donc ce festival. Et donc on a à la fois du documentaire, on a du cinéma d'animation. On a des fictions, on a des avant-premières. Donc cette année, on a eu droit. D'ailleurs, la salle hier soir était blindée. On a rempli la salle 2, ce qui n'est pas facile toujours à faire, avec un film qui était en compétition au Festival de Cannes, qui cette année qui a reçu une mention spéciale du jury d'un grand réalisateur palestinien qui s'appelle Elie Souleiman. Et le film d'hier soir, donc c'était It Must Be Heaven, qui sortira donc le 4 décembre, qu'on sortira en sortie nationale à l'Omnia. Voilà, donc elles sont passionnées de cinéma, elles sont passionnées de politique, de géopolitique, et donc elles essayent de nous faire prendre conscience de la problématique palestinienne et de cette absurdité totale et à travers le cinéma, que ce soit de la fiction ou du documentaire.
Sur le festival en lui-même, est-ce que déjà vous avez commencé à voir quelques films ou pas ? Si oui, lesquels ? Et est-ce que ça vous a plu aussi ?
Oui, bien sûr. Alors, sur la programmation, il se trouve que on a pas mal passé les films que Cara a programmés avec beaucoup de talent. Elle a eu l'inventivité, l'originalité et la curiosité de reprogrammer des films qu'on avait déjà passés mais qui n'avaient pas trouvé leur public. Et c'est vrai qu'on les avait programmés, c'était un peu compliqué. Donc elle s'est dit, je vais redonner un focus sur des films comme film d'animation incroyable qui est Samouni Road, The Report of Salem, Wajib, Tel Aviv on Fire, enfin des films comme ça qu'on avait sortis, mais bon, où ça a été un peu compliqué en termes de programmation parce qu'il y a énormément de films et les films n'ont pas été vus. Et il se trouve que pendant le festival, grâce à leur talent, parce que c'est faut vraiment du talent pour faire entrer des gens dans les salles, et elles ont réussi à remobiliser du public sur ces films qui avaient été très mal vus à l'époque. Donc c'est vraiment un travail assez exceptionnel. Voilà.
Comment on fait son choix en tant que programmateur, organisateur ? Comment on fait ce choix de films qu'on souhaite passer ? Est-ce qu'il y a d'abord des volontés personnelles ? Comment on fait ce choix ?
Alors, il faut comprendre que nous, en ce qui concerne l'Omnia République, puisque moi je peux parler sur l'Omnia, et comme pas mal de collègues aussi dans les salariés, c'est en France, on est sur un cinéma qui est un cinéma d'auteur. Bon, on dit cinéma d'auteur parce que ça arrange un peu tout le monde, mais c'est-à-dire que, en général, c'est quoi un film d'auteur ? C'est quelqu'un qui, de A à Z, suit son projet, sans qu'il y ait non plus 36 000 intermédiaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons films. Hein. Il n'y a pas une opposition systématique entre les blockbusters et le cinéma d'auteur, et les multiplex et les salles à réessayer. Mais c'est vrai que nous, dans les salles à réessayer, on prend énormément de temps pour pour parler de cinéma, pour travailler avec des associations, travailler le social, le politique, travailler sur les minorités, donc à travers le cinéma, parce que le cinéma nous propose beaucoup de choses. Donc on peut travailler sur que ce soit des minorités politiques, la minorité sexuelle, enfin toutes les formes de minorités, voilà, qui deviendront un jour la majorité et vice-versa. Mais on travaille beaucoup sur le fond. Et beaucoup donc avec les assos, comme on le fait sur le festival palestinien. Donc programmer une salle à essai, oui, c'est aller chercher des auteurs, des premiers films, des documentaires, montrer des choses qui ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'entrée. Et le cinéma à essai a une économie aussi bien spécifique. Hein. On a des films qui marchent avec du public fidèle et voilà. Mais on est dans un cinéma d'idées, voilà, et ça peut être aussi du divertissement pur, la RSA, hein, mais on est quand même dans un cinéma où il y a une notion de qualitatif, de moins de production, de terroriste du cinéma, et comme peut l'être, par exemple, l'industrie hollywoodienne, qui n'est pas à part entière, il y a des bonnes choses dedans aussi, mais il y a aussi un marché qui est un marché très... très commercial et voilà, qui est avant tout le moteur principal.
Vous avez, vous, une opinion, un avis, une vision qui se développe par rapport à l'état de la Palestine? Est-ce qu'il a fallu que, voilà, pour vous, il y ait le cinéma ou vous étiez déjà un peu bien renseigné bien avant?
Alors, pour tout vous dire, en toute franchise, oui, enfin, je connaissais le problème forcément parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas connaître ce problème si on s'intéresse au cinéma. Et puis on a vu énormément de films politiques. Enfin, on a passé beaucoup de documentaires. Moi, ça fait des années qu'on programme des films palestiniens. Et aussi, on a programmé pas mal de films israéliens parce qu'il ne faut pas non plus... Il y a des très bonnes choses dans le cinéma israélien et des cinéastes israéliens de la nouvelle génération qui sont très, très critiques par rapport à leur gouvernement et par rapport à la politique israélienne. Il y a aussi des choses comme ça. Il ne faut pas non plus... Il faut voir un peu les choses de manière un peu plus ouverte aussi. Parce que je pense qu'on n'avancera pas hein, si on se limite uniquement à la politique. Après, oui, c'est un problème que je connaissais, mais j'avoue vraiment que les organisatrices de ce festival et l'association qui organise ce festival m'ont fait découvrir des films entre beaucoup des sujets très profonds, des films documentaires, comme un film documentaire qu'on va avoir ce soir qui s'appelle Mafak, qui est vraiment très intéressant. On aura un sociologue qui sera là ce soir venir pour débattre avec le public. Mais non, elles vont très loin dans leur recherche sur le cinéma, sur le documentaire. Non, voilà. Oui, c'est pour répondre à votre question. Oui, moi, elles m'ont fait découvrir vraiment énormément de choses. J'ai compris des choses que j'avais pas comprises. Donc ça a vraiment une réelle utilité, cette programmation et ce festival. Et on croit savoir les choses, mais on ne sait rien. Et donc c'est toujours le cinéma permet cette fonction en tout cas.
Vous pensez justement que le cinéma est une meilleure arme pour avoir un nouveau regard sur la Palestine?
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ça peut permettre. Enfin, l'art en général. Hein, moi, je pense que l'art en général, parce que peut nous donner, peut régler. Je pense que ça peut. C'est très ambitieux, mais je pense qu'on peut régler des problèmes avec l'intelligence, la culture. Les artistes sont là pour ça. Ils ont toujours fait avancer le monde et le regard qu'ils portent sur les problèmes de société ont toujours fait avancer les choses. Et je crois que aller voir un film palestinien, parce que c'est pas que des films cinéma palestinien, il y a aussi plein de choses totalement différentes. Hein. Il y a des comédies, il y a des films politiques, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont des... Et voilà, c'est du cinéma avant tout. Hein, donc il ne faut pas non plus limiter ça à une problématique Mais forcément, comme ils vivent des choses très dures et très graves, ça se décalque un peu sur leur manière de filmer, leur manière de penser, leur manière de produire. Puis bon, c'est vrai que leur priorité, c'est quand même pas non plus le cinéma. Donc il y a tout à réinventer, il y a tout à faire, et comme dans pas mal de pays du Maghreb d'ailleurs.
Est-ce que vous pensez que ce festival, ces films, ces documentaires peuvent apporter au public de pouvoir mieux réfléchir et avoir un meilleur regard, ou vous pensez qu'il y a quand même aussi ce côté de divertissement avant tout ?
Oui, on a. Moi, je pense que le. Bon, alors, pour tout. Moi, je trouve que le public qui vient, pour être assez observateur de ça, et ça m'intéresse, moi, dans notre travail, quand on programme une salle, de voir vraiment les publics, qui vient voir les films. Le public de ce festival est un public très curieux en général, de culture, d'ouverture. Voilà, c'est un public aussi qu'on retrouve dans nos autres festivals, hein, qu'on peut retrouver dans les festivals du cinéma de l'Aisne, dans des festivals LGBT, des gens qui s'intéressent à énormément de choses. Mais sur cette problématique-là, c'est vrai que les gens. D'ailleurs, on a pas mal de stands dans le hall avec des livres. Des livres de bande dessinée humoristique aussi sur la Palestine, des bouquins plus sérieux, des livres plus sérieux, aussi Amnesty, beaucoup d'associations, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, tout ce qui a trait aux politiques et voilà. Donc on peut pas recevoir un festival Palestine si comme nous on n'est pas investi aussi dans cette cause-là, parce que sinon, c'est quand même c'est toujours un engagement de parce qu'il y a plein de salles de cinéma qui vont refuser ce type de programmation. Hein. C'est quand même ça peut être un peu compliqué pour certains programmateurs qui sont confrontés à soit dans des villes où il y a une opposition, où ça peut être très compliqué politiquement. Voilà, il faut faire toujours très attention à ce genre de choses.
Vous, en tant que programmateur, vous qui êtes quand même au cœur de l'organisation, est-ce que vous considérez que le cinéma est nécessaire pour faire passer un message assez fort, surtout quand il s'agit de l'état d'un pays ?
Ah oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, si on reprend le film d'Eli Suleiman qu'on a passé hier, It Must Be Even, lui, il a choisi la carte de l'humour et du côté un peu. Ces films, ça ressemble un peu à du Tati, c'est des films souvent sans dialogue. Et donc, c'est un fin observateur de la société en général et de son pays. Il parle de son pays pour parler d'universalité. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est presque une évidence. Voilà.
Alors, vous étiez présent pour la journée d'hier. Est-ce que vous pouvez un peu en parler et puis aussi voir un peu les retours que vous avez, surtout le retour du public et peut-être des organisateurs aussi ?
Oui, nous, on était très surpris, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une salle vraiment pleine. On n'a absolument pas forcé, parce que des fois, sur les festivals, il faut quand même un petit peu forcer les choses. Là, on a eu très, très peu d'invités. La majorité des places, ce qui est quand même assez étonnant, et là, c'est quand même des gens qui ont acheté leurs billets, qui sont venus voir le film en payant leur place, en voulant découvrir une œuvre, en soutenant l'action des organisatrices, parce qu'il y a une partie des recettes, en tous les cas, qui vont aussi vers... être versées à des associations aussi, parce qu'elles font tout un travail dans ce sens-là aussi. D'ailleurs, il y a pas mal de choses à grignoter, à vendre, même si c'est un peu symbolique, mais ça peut toujours aider à faire quelques actions et voilà. Non, la réaction du public était incroyable hier soir. D'ailleurs, on a fait un débat, on a eu Samuel Douer, qui est le rédacteur en chef de Télérama, donc qui a parlé du cinéma palestinien et entre autres d'Eli Suleiman. Et donc on a animé un débat qui était passionnant, qui a duré presque une heure et demie avec le public après le film, et c'était passionnant l'échange qu'il y avait, et j'ai bien vu que le film a vraiment vraiment plu au public.
Échange passionnant également celui d'Inès avec tous ces intervenants qui vous ont proposé ce fameux regard sur la Palestine. Le temps malheureusement nous manque, chers amis, déjà 17h59, il va falloir qu'on rende l'antenne en tout cas, excusez-moi, aux amis, aux autres camarades de HDR, notamment à la super musique de Radio HDR. Et puis voilà, donc on salue bien sûr l'ami Ousmane qui nous envoie de la musique pour nous préchauffer avant de retrouver la petite bande son habituelle que vous aimez bien sur le mix des cultures. On salue également l'ami Inès qui a travaillé dur ce week-end pour vous fournir ses petites interviews. Et puis voilà, on va vous laisser tranquillement en vous disant à demain sur le mix des cultures.